Alors on chante, qu'est-ce qu'on attend? On n'a pas de terre de rechange, on n'a plus le temps de faire semblant. Alors on se lance, on laisse plus faire. On n'aura pas de deuxième chance, pas de plan B, pas d'autre terre.
Calade,
ma radio.
Bonsoir, bienvenue pour une nouvelle émission de Alors on change, le rendez-vous bimestriel d'Alternatiba Villefranche pour penser le dérèglement climatique, ses conséquences et mettre en lumière le développement des alternatives locales. Notre émission de ce soir est consacrée au Tour Alternatiba qui a eu lieu du 2 juin au 6 octobre 2024.
Calade
100.9.
Et alors, pourquoi faire un Tour Alternatiba ? Parce que ça y est, on est rentré dans l'ère du dérèglement climatique. On en subit déjà les conséquences de plus en plus souvent, partout dans le monde et ici chez nous. Les sécheresses, les incendies, les inondations, tout ça, ça arrive de plus en plus souvent et de manière de plus en plus forte. La lutte pour le climat, elle est fondamentalement liée aux luttes pour la justice sociale et pour la démocratie. Plus le climat serait déréglé, plus il y aura de tensions autour des ressources et des territoires habitables.
Face à tout ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Les scientifiques du GIEC nous le disent. On doit agir ensemble sur deux volets. Tout d'abord, limiter l'ampleur de la catastrophe. Chaque dixième de degré compte pour épargner des dizaines de milliers de vies humaines et espèces animales. Ensuite, nous devons nous adapter. C'est ce que le dérèglement climatique nous impose face à ses conséquences qui vont continuer à s'amplifier. Et la manière dont on organise cette adaptation face aux conséquences du dérèglement climatique va imposer les bases de la société de demain. Aujourd'hui, on est à la croisée des chemins. Est-ce qu'on construit une société du chacun pour soi, d'inégalité et d'injustice sociale qui se creusent, ou une société d'entraide, de partage et de solidarité?
Après cette prise de parole des alternatibiens Rémi et Véronique à Villefranche le 10 septembre, nous retrouvons en studio nos invités, Anne-Sophie Trujillo et Christine Westerkamp, deux alternatibiennes qui ont participé à des étapes du Tour et à l'organisation de l'étape locale. Bonsoir.
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 Mais avant de vous donner la parole, nous allons écouter Francesca Binde, salariée d'Alternatiba chargée de l'animation de l'équipe, qui était interviewée par Mathieu Rohard sur Calade Ma Radio le 11 septembre. Il lui demandait quel est le principe du Tour.
Alors le Tour Alternatiba, c'est une mobilisation citoyenne massive pour le climat et la justice sociale. On a démarré le 2 juin à Nantes et on va parcourir, on a parcouru déjà une grande partie de la France et on va arriver à Marseille le 4 octobre. On parcourt la France avec à bord de triplettes, c'est des vélos de 3 et 4 places. Mais ces vélos ne sont que le fil rouge qui relie plein de mobilisations partout sur le territoire, comme hier à Villefranche.
Anne-Sophie, précisons tout de suite, Francesca parle de triplettes et de quadruplettes. Pourquoi ce choix de vélo ?
Ce sont des vélos à plusieurs places, en fait. C'est donc un vélo soit 3 places triplettes, soit 4 places quadruplettes. Et c'est des vélos qui ont déjà fait les deux précédents tours d'Alternatiba en 2015 et en 2018. Et ce sont ces triplettes et quadruplettes sur lesquelles, quand on est dessus, on est en collectif. Et en fait, elles symbolisent ça. Elles symbolisent le fait qu'il faut un effort collectif et il faut une solidarité pour arriver à déplacer des montagnes et à combattre le dérèglement climatique, qui n'est pas une mince affaire. Donc voilà, c'est un peu ces quadruplettes et ces triplettes qui nous ont permis, on en va en parler à Christine et à moi, et à d'autres personnes, de faire certaines de ces étapes du Tour Alternatiba pendant cette année 2022, 2024. Waouh.
Et puis peut-être que c'est plus facile à 3 ou à 4.
Eh bien oui, quand on est plus, quand on est ensemble, geste, enfin la pédalage, tu nous confirmeras aussi ce que tu as ressenti, Christine. Mais oui, on a eu l'impression vraiment que, bah, que c'est pas un truc que j'aurais fait toute seule, quoi. Moi, je me souviens de nous deux montées, un ou deux cols là, où tu te dis, ouais, heureusement qu'on est trois là-dessus parce que c'est quand même plus facile. Donc voilà, c'est vraiment pour nous ce symbolique qu'on retrouve sur nos t-shirts Alternativa, enfin dans notre logo, de cette triplette, de faire des choses ensemble et que c'est dans la joie et dans le collectif qu'on peut réussir à dépasser cette fichue éco-anxiété ou en tout cas ce vertige de la catastrophe climatique dont on sent déjà aujourd'hui les premiers... Enfin, on est dedans, quoi.
Et on parle beaucoup d'Alternativa, là, depuis le début, mais l'autre association qui était en action, c'était ANV COP 21. Pouvez-vous nous expliquer ses actions et pourquoi elle a pris part à ce tour ?
Oui, ben, Alternativa, enfin, ceux qui écoutent l'émission ici le savent un peu, Alternativa et ANV COP 21, ce sont deux associations... sœurs, jumelles, enfin on peut employer le mot qu'on veut, mais qui sont effectivement très proches l'une de l'autre. On dit tout le temps qu'on est les deux jambes d'un même mouvement, la jambe alternativienne, qui est la jambe pour les alternatives, qui va essayer de mettre en avant, de créer de la mobilisation, cet autre monde qu'on attend de nos souhaits le plus vite possible. Et puis la branche de la désobéissance civile non violente, ANV COP 21, Action non violente COP 21, donc sa sœur jumelle qui a été créée au moment de la COP 21 et qui a, elle, pour objectif de mener des actions de désobéissance civile non violente à des moments où le dialogue, la rencontre, la recherche de compromis, de consensus, de consentement avec l'adversaire climaticide ne se retrouve pas. Et donc là, on rentre en désobéissance civile non violente et on le fait avec un t-shirt d'une autre couleur, qui est le t-shirt jaune de ANV COP 21. C'est parfois un peu compliqué à comprendre pour nos interlocuteurs. Mais pour nous, ça fait vraiment partie d'un tout, partie d'un engagement qui, à la fois, veut vraiment faire bouger les choses sur nos territoires, veut promouvoir le vélo, l'alimentation écolo, le bio, pardon. Enfin, voilà, plein de choses qui rendront le monde décarboné. Et puis, la tension qu'il est nécessaire de créer avec les institutions ou les personnes qui la composent quand les changements n'arrivent pas et que, voilà, on se sent légitime à désobéir. Donc, ANV COP 21, oui, a participé aussi à ce tour. Et on en reparlera peut-être tout à l'heure, mais on a réalisé beaucoup de formations à la désobéissance civile non violente dans l'espoir de voir des gens s'outiller et passer le pas et sortir justement de cet état de sidération dans lequel on est un peu tous maintenant, quoi.
Et vous le disiez, il y a déjà eu deux autres éditions. Est-ce que vous pouvez nous dire comment ça a commencé ?
La première édition, c'était 2015. La deuxième, 2018. Et ça a commencé parce que ça fait un peu partie de l'ADN et de la genèse un petit peu d'Alternativa. On a voulu, comme disait Francesca dans le morceau que vous avez passé juste avant, on a voulu vraiment faire un fil rouge entre les différents territoires et sillonner l'hexagone, sillonner le territoire pour mobiliser des gens le plus possible, leur dire que c'était possible de ne pas déprimer dans son coin, que c'était possible de se mettre en marche ou à vélo, en tout cas qu'il y avait quelque chose à faire dans chacun de ces territoires et qu'on pouvait habiter dans une grande ville, dans un milieu rural, dans une banlieue, enfin peu importe, quel que soit l'endroit où on habitait, il y avait des choses à faire. Et sous forme de faire un tour comme ça à vélo, ça permettait d'aller rejoindre plein de territoires différents et ça permettait de créer comme ça cette continuité et ce lien entre les territoires, puisque on a permis comme ça de rejoindre plusieurs villes.
On a bien compris les motivations du tour liées au climat, mais c'est toute l'organisation de la société qui est mise en cause. L'appel signé par de très nombreuses organisations lors de ce tour évoque également la politique.
Bah oui, parce que on dit changer le système, pas le climat. On se souvient tous de les petits pas, ça suffit pas. Et c'est ça aussi le message politique. Enfin, on dit qu'on est une organisation, enfin deux organisations très apartisanes. C'est important pour nous le côté apartisan. Par contre, on est extrêmement, éminemment politique, c'est-à-dire qu'on porte vraiment une vision d'une société différente. Donc oui, il nous a semblé important, quand on a lancé la fabrique du Tour Alternatiba 2024, d'embarquer plein d'associations avec nous, plein de personnalités de la société civile, et donc de rédiger cet appel qui peut se retrouver sur le site web d'Alternatiba, qui engageait effectivement les gens à se lancer dans la transformation de leur territoire et à s'engager pour concrètement soutenir toutes ces alternatives qui existent. Et je parle là des AMAP, de la finance solidaire, voilà, d'autres choses que ce que le système actuel capitaliste extractiviste nous propose.
Oui, mais au moment du lancement du tour, on était en pleine période d'élection avec tout ce que ça a comporté. Et du coup, un appel aussi par rapport au mouvement politique qui était présent.
Bien sûr. Ça nous semble incompatible d'avoir un gouvernement d'extrême droite avec des mesures de justice sociale et de transformation du territoire. C'est vraiment fondamental. On le voit bien par le réel. Aujourd'hui, dès que des pensées extrémistes sont au pouvoir, et ben c'est climaticide. Et le budget 2025, excusez-moi, mais le démontre clairement, quoi, hein, l'abandon de tous les plans mobilité, plans vélo, l'abandon d'une partie de la prime rénov, l'abandon des zones d'artificialisation, enfin de la non-ZAN, de zéro artificialisation, ça démontre bien que oui, on est dans un combat qui est extrêmement systémique et politique.
Et puis, pour avoir quelque chose d'un petit peu plus gai, parlons chiffres, parce qu'ils sont impressionnants, les kilomètres, les participants, c'est une très grosse mobilisation.
Oui, on a donc fait à peu près plus d'une centaine d'étapes à travers toute la France. Il y a eu 108 cyclistes, dont 3 ici dans la pièce, puisque j'ai pu pédaler, Christine aussi, et puis Gaëlle, qui était à la technique ce soir, aussi a pédalé. Donc, il y a eu en tout 108 cyclistes, 56 femmes, yes, et 52 hommes. Un grand panel d'âge, puisqu'on était entre 18 ans et 67 ans. Et on s'est donc relayé à travers 19, il me semble, ou 20 semaines d'affilée. On appelait ça des salves sur ces vélos triplettes et quadruplettes. Et on a pu mobiliser à peu près 24 000 personnes pendant tout ce tour-là, quoi. Donc oui, on est très contents de la mobilisation que ça a créé. Et on se réjouit vraiment d'être passé par une variété incroyable de territoires ruraux, territoires urbains. Vraiment, c'était très, très, très positif pour nous.
Anne-Sophie, vous l'avez dit, le Tour Alternatiba, c'est un parcours de 4 mois avec plus d'une centaine d'étapes. Mais ces étapes, elles sont bien différentes les unes des autres, dans leur localisation, dans leur ampleur, leur type de mobilisation. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples ?
Oui, l'objectif, c'était pour nous de passer vraiment dans une grande diversité de territoires. On a parlé du contexte politique dans lequel on s'inscrit depuis plusieurs années, hein, et le fait que après les grandes marches climat des années 2018-19, où il y a eu une implication très très forte dans des grandes zones urbaines, ça nous semblait important d'aller remettre un focus sur les zones moins urbaines pour justement contrer un peu cette cet entre-soi qui est en train de se créer ou cette dichotomie qui est en train de se créer entre les villes et les villages. Donc on a voulu vraiment insister. Enfin, c'était pour nous vraiment un axe stratégique de passer par une grande diversité de territoires. Donc on a été dans des villages, on a été dans des petites villes et dans des plus grosses villes, mais seulement à peu près, on a fait un calcul, environ 15% des étapes seulement ont eu lieu dans des très grandes villes, parce qu'on voulait vraiment aller visibiliser le mouvement climat aussi dans une ruralité où on entend moins parler d'écologie, où souvent l'écologie apparaît comme étant punitive, et où pour nous, bah, c'était important d'embarquer des populations qui ne sont pas forcément impliquées dans ces combats-là. Et par exemple, à Villefranche, on a fait le choix d'être à Belle-Roche, donc en quartier populaire, pour ça. Et ça a été le cas dans d'autres villes. On est allé... le lancement à Nantes s'est fait dans un quartier, le quartier d'Hervalières, qui est aussi un quartier populaire. À Marseille, on est passé dans les quartiers nord à l'arrivée. La Vélorussion est partie du quartier de l'après-M, dans le quartier nord. Donc voilà, on a vraiment tenu à ce qu'il y ait un peu ce mixte des populations. C'est important et ça doit vraiment contrer l'idée que l'écologie est forcément bobo et que voilà, quand tu es en difficulté dans la vie aujourd'hui, ben, du coup, tu n'as pas le temps de faire de l'écologie, quoi. C'était vraiment cette idée-là qu'on voulait contrer.
Et dans chaque étape, il y a parfois des actions, pas systématiquement, mais est-ce que vous pouvez nous donner des exemples d'actions qui ont été menées sur certaines étapes ?
Ouais, alors par exemple, il y a eu des jardins qui ont été créés, il y a eu des pistes de vélo qui ont été dessinées. C'est vrai que pour nous, quand on a conçu, au niveau national, penser ce tour et qu'on a commencé à le penser avec les groupes locaux comme les groupes de Villefranche, on voulait vraiment le tourner sur le côté transformation des territoires, c'est-à-dire que le tour puisse démontrer qu'on transformait le territoire. Et ça, c'était pas forcément toujours facile parce que ça s'inscrivait peut-être pas dans le bon momentum. Hein. Par exemple, nous, à Villefranche, on a été avertis au mois d'avril, je dirais à peu près avril-mai, bah, que ça passerait début mi-septembre. Et donc, du coup, bah, la date s'imposait à nous. Donc, pour les associations, qu'elles soient de Alternatiba ou d'autres, parce que dans plein d'étapes, ce sont des groupes de citoyens hors du réseau Alternatiba qui ont créé l'étape, quoi. Et ça, c'était fantastique. Enfin, moi, j'ai des souvenirs d'arriver dans des villages où il y avait un collectif de citoyens qui nous a reçus, mais comme des rois, où ils avaient réussi à monter 40, 50, 60 personnes qui étaient là dans une campagne. Enfin, c'était vraiment très fort. Et donc, du coup, pour nous, c'était important que on puisse soit mettre en œuvre une transformation, soit affirmer qu'un groupe de citoyens existait là pour mettre en œuvre cette transformation. Si ce n'était pas le jour J du passage du tour, ce serait plus tard, quoi.
Alors Christine, on va vous donner la parole. Vous avez participé à une étape, l'étape entre Grenoble et j'ai perdu l'arrivée,
Roquestéron.
Et c'était la première fois pour vous le tour Alternatiba. Alors on a vraiment envie de vous accompagner sur ce tour. On monte sur la triplette avec vous. Comment c'était ?
Alors... Bon, moi j'ai rejoint Alternatiba récemment, ça fait un an en fait. Et j'ai apprécié la dynamique qu'on y trouve. Bon, je connaissais que le groupe local de Villefranche. Et quand j'ai entendu parler du tour, ça m'a tout de suite fait envie pour, d'une part, cet esprit que décrivait Anne-Sophie, où on va, dans toute la France, dans des zones très différentes, mettre en lumière ce qui bouge. Alors ça, c'était l'envie de départ et j'ai constaté en faisant l'étape à quel point c'est inspirant de voir comme il y a des personnes qui font bouger les lignes sur des sujets différents un peu partout. Et donc on voit que même si on ne connaît pas forcément les petites associations locales, il y a un mouvement qui existe, qui est vraiment un peu partout en France, quoi. Ensuite, moi j'adore partir en randonnée en extérieur, c'est quelque chose qui me parle, donc ça me donnait envie de le faire. Et puis le fait aussi que ce soit des équipes intergénérationnelles, c'est une autre chose qui me tentait. Et donc voilà, donc, j'ai eu très vite envie de le faire. Au début, je ne me sentais pas légitime, je n'ai pas trop osé. Et puis voilà, finalement, j'ai vu que c'était possible. J'ai compris quand j'étais sur le tour qu'il y avait une attention de la part de l'équipe d'organisation à permettre à des personnes de profils différents de pédaler sur le tour, avec des personnes engagées dans Alternatiba depuis longtemps, des personnes engagées récemment, puis d'autres qui n'étaient même pas encore engagées dans Alternatiba. Et ouais, je trouve ça vraiment chouette qu'il y ait cette attention, ce qui impliquait que des personnes qui auraient voulu faire beaucoup d'étapes, parfois se sont désengagées de certaines étapes pour permettre à des personnes moins engagées de participer aussi.
Alors, par exemple, entre Grenoble et Roquestéron, combien d'arrêts, combien de pauses, ça a représenté une semaine ?
C'est ça, une semaine, donc 6 nuits, dont 2 au même endroit, parce qu'on est arrivé à Vennes, où il y a eu un partenariat avec Attac 05, je pense, qui a organisé une journée de, je ne sais plus comment ils l'ont appelé, mais une journée sur les alternatives avec des conférences, plein de choses qui se passaient et où donc on a participé par la réalisation d'une formation à l'action non violente dont parlait Anne-Sophie. Bon, mais ça, c'était en fait à toutes les étapes, il y avait une équipe qui restait pour faire cette formation. Et puis, des thèmes très différents. Moi, j'ai découvert la sécurité sociale de l'alimentation. Il y avait une association qui s'opposait aux Jeux Olympiques 2030 dans les Alpes, qui montrait à quel point c'est absurde par rapport aux enjeux climatiques et aux perspectives des Alpes. Un débat sur la transition dans les Alpes après l'or blanc, donc toute l'exploitation, toute l'économie autour de la neige, comment aller vers autre chose. Une conférence, je ne sais plus, conférence gesticulée, je ne sais plus comment ça s'appelait, sur le BTP, c'est-à-dire la construction bois-terre-paille, qui était, c'était très vivant.
Et ce qu'il faut dire, c'est que chaque étape que tu faisais, il y avait des assos locales qui étaient là.
Oui, tout à fait. Et là, il y en avait plein de regroupés. Mais un peu partout, il y avait pas mal d'associations différentes.
Alors, vous l'avez déjà un peu dit, mais pour vous, quels ont été les points forts de cette expérience ?
Alors moi, j'ai été impressionnée par l'organisation mise en place avec chacun a un rôle précis pendant la salve, pendant la semaine. Ensuite, chaque jour, chacun a un autre rôle. Donc, les rôles de par jour, ça peut être média activiste, préparer le repas du soir, le repas du midi, aller récupérer de la nourriture parce qu'on était en lien avec des... Enfin bon, un peu partout, on contactait notamment le réseau Biocoop, mais aussi d'autres... d'autres magasins d'alimentation pour récupérer des invendus ou des produits en fin de vie. Des choses toutes bêtes, GPS, tenue de stand, parce que tous les soirs, on avait un stand Alternatiba. Il y avait aussi la prise de parole. On expliquait pourquoi on était là, ce qu'on avait fait, l'esprit du tour, etc. La responsabilité de la logistique, de la communication, l'entretien vélo, etc.
Et à titre personnel, de l'enthousiasme, pas trop de courbatures.
Alors moi, je suis partie, en fait, une semaine avant, j'ai commencé à me dire, oh là là, mais en fait, j'ai quand même plus de 60 ans, j'ai une tendinite au coude, est-ce que vraiment c'est raisonnable de faire ça ? J'étais partie dans l'enthousiasme. Et en plus, je me suis rendu compte que l'étape Grenoble-Roquestéron, il y avait beaucoup de dénivelé.
C'est celle qui monte. Ouais.
C'est celle qui, voilà.
Une étape des Alpes, oui, c'est pas la plus facile.
Voilà, c'est ça. Et j'ai vu très vite que, en fait, ce que disait Anne-Sophie sur le fait de pédaler ensemble, en effet, à trois, les dénivelés passent tout seuls. Donc un peu mal aux fesses, c'est normal sur le vélo, mais sinon, tout bien. Thank you.
Léonie Pernet avec son titre « Réparer le monde ».
100.9.
Parmi les étapes, le groupe Alternativa Villefranche-Beaujolais-Saône a organisé celle qui arrivait chez nous à Villefranche le 11 septembre. Mais la première pause de ce cortège a eu lieu au bord de la Saône à Saint-Bernard.
Bonjour tout le monde, est-ce que vous allez bien? On est très heureux et heureuses d'accueillir une étape du Tour Alternativa aujourd'hui. Merci aux cyclistes alternativiens et alternativiennes d'être là et aux autres cyclistes de les rejoindre pour cette vélorution. Donc ici on est à Saint-Bernard, a priori pas notre terrain de lutte à Alternativa Villefranche. Mais si on est là, c'est parce qu'on peut voir derrière moi, en face, au côté de la Saône, toute une zone renaturalisée et humide qui est menacée de destruction par un projet de port de plaisance nommé le port du Bordelan. C'est un projet qui s'étale sur 64 hectares. Donc tout va être rasé pour construire un port. 20 hectares qui sont prévus pour le bassin en lui-même, qui va compter 350 anneaux, donc accueillir 350 bateaux à moteur, à minima, avec toute une zone de tourisme portuaire, hôtels, restaurants, commerces. Et ça fait plus d'un an que nous, Alternativa, avec 5 autres associations de protection de l'environnement, nous opposons à ce projet. On a communiqué sur les réseaux, on a fait l'objet d'articles, on a tracté aussi tout l'été. Et on profite de votre présence pour faire encore un coup de projecteur et pour mobiliser encore et encore contre ce projet.
Alors Anne-Sophie, on vient d'entendre Maïlys qui parlait du départ de l'étape caladoise à Saint-Bernard et elle parle de la vélorution. Qu'est-ce que c'est qu'une vélorution et en quoi notre territoire est-il concerné par ce genre de manifestation?
Les vélorutions, comme Christine disait tout à l'heure, c'était en fait chaque étape avait à peu près le même schéma. Et pour chaque étape, quand les vélos, les triplettes arrivaient, parce que qu'est-ce qui a vraiment fait le tour de toutes les étapes, c'est les triplettes, donc 2x3 cyclistes. Et la quadruplette, qui elle était un peu plus vieille, Madame la quadruplette, elle a quand même fait pas mal de tours, hein, elle a déjà fait 2015-2018. Donc Madame la quadruplette, on la sortait du camion justement 5 à 10 km avant d'arriver à chaque étape, où on donnait rendez-vous là à tous ceux et celles qui voulaient nous rejoindre pour manifester à vélo, en tout cas pour faire une balade à vélo, mais revendicative sur la route, pour montrer que il fallait partager l'espace public et l'espace routier, et qu'on devait maintenant sortir un peu du tout voiture, et que même si on a un président qui aime la bagnole, y a aussi d'autres nécessités qui nous obligent et qui nous font plaisir en plus de sortir de cette bagnole et de prendre son vélo pour faire des déplacements du quotidien. Et ces vélorutions, elles sont souvent organisées avec des associations de vélos du coin. Je ne sais pas si ça s'est passé comme ça pendant la semaine où tu as été, Christine.
Oui, tout à fait. Je ne sais plus dire les noms des associations, mais il y a des associations de vélos et puis des associations de lutte en tout genre.
Voilà.
En fait.
Et du coup, c'est vraiment la vélorution, un moment où on va déambuler dans la rue sur ces 5 derniers kilomètres avec les triplettes et la fameuse quadruplette, où on invite des gens à venir avec nous, comme tu disais, Christine, d'être le plus inclusif possible, de faire dans la joie ces derniers kilomètres avec de la musique, avec des petites pancartes,
des slogans,
faire ces derniers kilomètres pour arriver au lieu où se passait le finish de l'étape. Et nous, on a tenu à donner rendez-vous à Saint-Bernard, comme disait Maëlys, parce qu'on est en lutte contre le projet du port de plaisance du Bordelan, un des plus grands ports fluviales de France. On va revenir dans régulièrement Alternatiba Villefranche. C'est une de nos grosses luttes en ce moment. Et puis, on a tenu aussi, dans le déroulé de la vélorution, à passer par le pont de Jassan. Alors, je sais qu'il ne s'appelle pas le pont de Jassan, mais...
Le pont de Franc, en général.
En vrai. Mais en fait, c'est celui qui relie Jassan et Villefranche. Tout le monde le connaît ici pour ses fameux embouteillages du matin et du soir, et surtout sa totale inaccessibilité à autre chose qu'à des bagnoles. C'est quand même assez dangereux. Il faut être un cycliste courageux pour pouvoir le prendre matin et soir pour aller au boulot, et pourtant c'est quand même vachement mieux quoi. Donc cette vélorution, elle passait aussi par le pont où on a pu distribuer des flyers à la population qui était autour pour dire dites donc, il faudrait peut-être que nos dirigeants et là on parle du département parce que on est sur une route départementale Rhône, et puis de l'agglomération de Villefranche, de se bouger pour trouver des moyens de faciliter la circulation douce sur ce pont-là.
Et pourquoi avoir choisi une arrivée à Belleroche ? Vous l'avez un peu évoqué en parlant des motivations du tour en général,
ouais.
Mais ici, particulièrement à Villefranche, pourquoi Belleroche ?
Parce que ça fait partie des endroits où justement on pense que y a un manque de sensibilisation de la puissance publique à inclure ces populations-là dans des projets écologiques, et que ça nous semblait important que on se donne pas rendez-vous encore une fois en centre-ville, mais qu'on aille là où c'est pas forcément évident de parler d'écologie. On a eu un super partenariat avec le club de foot de Belleroche qu'on salue bien ici et qu'on aura l'occasion d'aller revoir à Alternatiba, parce que on a vraiment pu ensemble trouver des accords pour faire la fête ensemble et pour accueillir ces cyclistes-là. On a eu beaucoup de liens avec des familles. Les enfants, on avait fait un atelier vélo quelques semaines avant.
Quelques jours avant,
alors, merci. Et les enfants utilisent le vélo pour déambuler dans la cité et déambuler dans leur quartier. Et grâce à Vuvib, l'association pour le vélo urbain à Villefranche, on a pu faire ces ateliers de réparation, et on retournera comme ça dans Belleroche. C'était pas un one shot, quoi.
Et alors à Belleroche, l'arrivée a été très festive avec la Batucada Gang Ouf qu'on a entendu un peu plus tôt dans l'émission. Mais à part cette magnifique arrivée avec le cortège de la Batucada, qu'est-ce qui s'est passé d'autre ?
Il s'est passé qu'il y a plein de gens différents qui se sont retrouvés, qui ont bu des coups ensemble, qui ont papoté, qui ont pris connaissance du Tour Alternativa, qui ont, j'espère, pris connaissance du groupe de Villefranche. Ça a été un moment où on a pu justement sortir un peu de notre carcan militant activiste de base, mais avoir une centaine de personnes présentes là sur un soir de semaine, la semaine de la rentrée des écoles. Donc nous, on était vraiment très contents de la mobilisation. Et il s'est passé des rencontres. En fait, pour nous, c'est vraiment important aussi que la lutte, elle passe par la joie. Je veux dire, on est tous très conscients que c'est difficile et que ça va être encore plus difficile avec les effets du dérèglement climatique qui sont là. On va vivre ça dans nos chairs, et d'autant plus dans les quartiers populaires ou dans les personnes qui ne sont pas préparées à ça ou qui n'ont pas les moyens de se préparer à ça parce qu'elles sont dans une routine de vie complètement enfermée dans des carcans économiques compliqués. C'est chouette d'avoir ces moments-là où on puisse faire la fête, on puisse se connaître, mieux se connaître, parce que c'est dans les moments difficiles qu'il y a cette résilience qui doit s'exprimer.
Et puis, il y avait aussi des stands d'associations.
Oui, et puis ça a permis, par exemple, le combat sur le bord de l'An. On avait préparé des grands panneaux. Dino, adjacent, l'association qui combat une implantation et qui en passe de la gagner, cette lutte. Donc ça aussi, c'est important. La mobilisation, ça paye et ça marche. Et donc, les dinos sont venus pour nous expliquer comment ils avaient combattu ce projet-là et comment ils arrivaient à avoir obtenu pour l'instant un arrêt des travaux. Il y a eu La Folleuse, qui est une brasserie écolo, des paysans brasseurs qui sont venus aussi et qui ont proposé des boissons. Enfin voilà, tout ça, ça met en jeu un projecteur sur des choses qui fonctionnent, qui existent ici et qui marchent.
Oui, je disais le 15, la revue Silence, ouais. D'autres intervenants qui étaient là.
Et en guise de conclusion, le Tour Alternativa, c'est donc qui a commencé il y a 3 mois et qui se termine dans 1 mois, c'est un catalyseur de tout ça. C'est une étape dans le développement de cette stratégie générale. On va chercher des nouveaux publics, on va créer des déclics d'engagement, on va diffuser un récit d'une société alternative et tout ça dans plein de territoires différents.
Et voilà, le Tour Alternativa 2024 s'est conclu le week-end du 5 octobre dernier à Marseille par une immense mobilisation qui était nommée la Cité des Possibles, avec des tables rondes, un village des alternatives et des concerts. Alors qu'encore une fois, l'été que nous avons vécu a été le plus chaud jamais mesuré, que l'année 2023 a également été l'année la plus chaude jamais enregistrée, alors qu'encore une fois, les États-Unis viennent de se choisir un président faisant primer l'économie sur le climat et qui s'entoure d'une équipe gouvernementale pleine de climato-sceptiques et de patrons de Wall Street, alors qu'encore une fois, les mesures climat sont sacrifiées en France à la rigueur budgétaire par ceux-là même qui nous poussent contre le mur, eh bien, encore une fois, le mouvement climat poursuit la mobilisation populaire pour le climat et la justice sociale. En 2025, le groupe local d'Alternativa ANV COP21 Villefranche participera sur la scène nationale à 2 événements majeurs. Une nouvelle campagne avec AXA « C'est la catastrophe assurée » qui débute tout juste pour obtenir du leader mondial du secteur l'arrêt des assurances des projets de pétrole et de gaz. Et pour l'été 2025, un grand camp climat autour des enjeux des élections municipales de 2026 qu'il faut bien préparer. Localement, on l'a déjà dit, nous poursuivons la mobilisation contre le projet obsolète du maxiport de plaisance de Bordelan à Ans, dont on vous reparle d'ailleurs juste après par le biais d'une nouvelle chronique. Allez, ne nous regardez pas, rejoignez-nous pour changer le système, pas le climat. Merci à Christine et Anne-Sophie qui étaient nos invités aujourd'hui.
Merci. Merci.
Non, ce n'est pas la vie en rose, ni la vie de bohème. C'est un combat qu'on te propose au nom de tous les gens qu'on aime. Pour la terre et le vivant, en défiant l'air du temps, faisant face au vent déviant, fidèle à nos rêves d'enfant. Une vie de rêve et de combat, la terre pour seul emblème, ni terroriste ni en la loi, une faille dans leur système. Une vie de rêve et de combat, au nom de tous les gens qu'on aime, ni consommateurs ni soldats, une faille dans leur système. Ce qu'on dit, on avance et on trace. Sonner l'alerte, c'est interdit. Nous sommes une menace. Les chiens de garde font la loi tous les soirs à la télé. À la solde des grands lobbies, dis-moi combien sont-ils payés? Une vie de rêve et de combat, la terre pour seul emblème. Ni terrorisme ni en la loi, une faille dans leur système. Tout s'achète, l'honneur, la vie, la liberté. Le doigt posé sur la gâchette voudrait contrôler nos pensées. Mais nous avions semé nos rêves, voilà que fleurit la relève. Une nouvelle génération se lève, une autre faille dans leur système. Une vie de rêve et de combat, la terre pour seul emblème.
C'était Une vie de rêve et de combat par HK, une chanson qui est devenue l'hymne du Tour Alternatiba 2024.
Calade
100.9.
On inaugure à présent une nouvelle chronique, le coin Lecture des Marais, présenté par Bertrand Lamure de la librairie des Marais à Villefranche, que nous sommes ravis d'accueillir dans cette émission.
Bonjour à tous. Alors, très heureux de faire cette chronique. Alors, qui dit chronique, dit tout de suite une idée qui m'est venue par la tête. C'est d'évoquer à la fois le personnage, mais aussi la dernière publication de Baptiste Morisot. Alors, Baptiste Morisot, alors c'est quelqu'un qu'on connaît parce qu'il n'est pas totalement absent à la fois du... du débat environnemental, sociétal, philosophique aussi, puisque Baptiste Morisot, à la base, est quelqu'un qui est philosophe, qui enseigne à l'université d'Aix-Marseille, mais qui a très tôt eu cette volonté de faire la relation entre l'humain et le reste du vivant. Donc, de lui à un certain nombre de textes que l'on connaît, je me rappelle d'un titre que j'avais profondément apprécié, qui était « Sur la piste animale » chez Actes Sud, que vous pouvez retrouver en Babel d'ailleurs, en poche. Et c'était déjà quelque chose de très innovant, de très intéressant, où il prenait le temps d'aller sur la piste animale, sur la piste de l'ours, du loup. Et donc il avait continué avec un certain nombre de titres comme « Réparer le vivant », voilà. Toujours très intéressant. Et alors, donc on en vient à l'actualité, il a sorti il y a quelques semaines, toujours chez Actes Sud, un ouvrage que je trouve absolument, alors je vais dire réussi, mais très touchant. Alors, il s'est associé avec une femme qui s'appelle Suzanne Husky. Suzanne Husky, elle est à la fois paysagiste, artiste et évidemment très proche de la nature. Et les deux ont essayé de nous proposer un livre avec les aquarelles de Suzanne et la réflexion croisée de Baptiste et de Suzanne sur les rivières. Le titre est « Rendre l'eau à la terre, alliance dans les rivières face au chaos climatique ». Et alors c'est totalement passionnant et Baptiste Morisot, dans cet ouvrage, évoque quelque chose qui nous est à la fois extrêmement familier, qu'on a presque perdu de vue quand on habite en ville. Quand on habite dans une ville comme Villefranche, la rivière qu'il traverse, qu'est le Morgon, a totalement disparu. Et quand on regarde notre histoire, on sait que le Morgon a été très présent. Quand on est en amont de ce Morgon, quand vous êtes à Cogny, à l'Asna, au contraire, c'est une jolie petite rivière qui coule. On dit « Waouh, elle est super, elle est très naturelle, l'homme n'a pas dû tellement y toucher ». Et il nous montre, alors Baptiste Morisot, que évidemment ce n'est pas du tout le cas, et que nous, on a transformé, on a urbanisé, on a bétonisé les rivières. Tout ça fait que ce n'est pas la rivière, et surtout ce n'est pas la rivière qui permet à la nature de se régénérer, à la nature de laisser la place à un certain nombre de vivants, et à faire ce travail, parce que du coup la rivière n'est pas ce cours d'eau linéaire qui prend peu de place, mais au contraire la rivière s'étend. La rivière, elle a tout un essor, toute une zone. Et alors, il s'appuie sur un animal qui est à la fois un animal qu'on aime bien parce qu'il y a un petit côté désuet. C'est un animal qui est là depuis 8 millions d'années. Et surtout, c'est un animal qu'on a beaucoup exterminé, qui est le castor. Voilà, la peau du castor, la fourrure du castor, etc. Ce qui fait qu'il ne reste pas beaucoup, beaucoup de castors. Et pourtant, ce castor, dans nos rivières françaises, historiquement jusqu'à aujourd'hui, il nous explique qu'aujourd'hui, il y a encore, de temps en temps, dans la ville, dans le Rhône, sur des endroits industriels improbables, il y a encore des castors. Et ces castors sont parmi les acteurs les plus importants de la rivière, parce qu'ils ont, ils ont permis à la dévier, ils ont permis de la retenir, ils ont fait des barrages, pour justement, évidemment, se cacher, pour se reproduire, pour se nourrir, mais aussi pour un peu gérer cette rivière, parce que nous, on l'a gérée, mais d'une manière bien différente. Et du coup, on a ce texte-là qui nous fait prendre conscience comment, effectivement, en fait, cette rivière que nous, on a réduite en un canal, et du coup, ce canal, quand il pleut beaucoup, prend une force énorme, et évidemment, c'est en aval que tout se déverse, tout devient ingérable, et c'est l'exemple des villes que l'on a aujourd'hui et des drames qu'on peut avoir. Donc je vous encourage vraiment à lire cet ouvrage, en plus aussi peut-être un beau livre pour Noël, vous verrez bien, qui s'appelle « Rendre l'eau à la terre, alliance dans les rivières face au chaos climatique ».
Merci Bertrand, voici donc un beau livre pour occuper nos soirées d'hiver qui arrivent, et on retrouve maintenant la lutte contre le port de Bordelan.
Les actualités du port de plaisance dense.
Nous inaugurons ce soir cette nouvelle chronique dont l'objectif est de vous tenir au courant de notre lutte contre le projet de création d'un des plus grands ports de présence sur le site de Bordelan à Ans. Alors, que se passe-t-il sur le terrain ? Ça semble être le calme plat du côté du syndicat mixte et de la Serle, puisque le résultat de la concertation publique qui s'est tenue avant l'été, en juin, n'a toujours pas été publié malgré une large expiration du délai légal. Ou bien il a été publié de façon extrêmement confidentielle. En effet, personne n'a jugé bon de répondre à la lettre recommandée que nous avons envoyée avec les autres associations avec qui nous sommes alliés. Nous réfléchissons ensuite à apporter à ce déni démocratique et à l'irrespect des obligations légales publiques. Et donc, nous aussi, nous restons calmes, mais déterminés, motivés. Nous avons lancé une pétition en ligne contre ce projet, et là, c'est à vous d'agir. Vous trouverez le lien de signature sur notre site Alternatiba, sur nos réseaux sociaux et sur le site de Calade Ma Radio. On compte sur vous pour la faire signer, pour la signer et la faire tourner autour de vous. Parallèlement, toutes nos associations se sont réunies pour construire un dossier d'alternative à ce projet. Là aussi, faites entendre votre voix et faites-nous savoir ce que vous voudriez avoir sur ce site à la place du béton. Enfin, nous préparons l'enquête publique dont la date n'est toujours pas fixée. En tout cas, comptez sur nous pour vous tenir informés de l'ouverture de cette enquête déterminante. Et retrouvez-nous en vrai sur le marché d'Ans les vendredis matins, aux sorties des écoles à Ans, car pour mobiliser, il faut d'abord informer. Et c'est ce à quoi nous allons consacrer notre énergie en cette fin d'année.
On est plus chaud, plus chaud, plus chaud que le climat. Vous avez entendu, madame la ministre? Ils étaient 35 000 aujourd'hui à nous dire que vous n'entendiez rien de ce qu'ils avaient à dire.
Amis, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines?
Notre maison brûle. Et nous regardons ailleurs.
Et qu'est-ce que fait le petit colibri? Eh bien, il va prendre une goutte d'eau et la jette sur le feu.
Les petits pas. Mais vous croyez que la situation climatique s'accommode des petits pas?
Qu'est-ce qu'on attend?
Ouais, artisans, ouvriers, paysans, c'est l'alarme.
Scientifiques en rébellion, alors on tire l'alarme essentiellement en faisant de la désobéissance civile non violente.
Nous, on fait chez Alternatiba des actions de désobéissance civile et ça fait plusieurs années qu'on observe une intensification de la répression.
On ne peut accepter ni les factieux ni les factions.
Le problème, il est systémique et le seul message sérieux, c'est qu'il faut changer de système. Et donc, en face, le système se défend.
Il est urgent qu'on construise un récit positif, sans être encore une fois naïf, mais montrer aussi que ce monde qui s'annonce peut aussi offrir une vision qui est plus durable et plus souhaitable pour tous.
Une des puissances des soulèvements de la Terre, c'est que ça ne se contente pas de s'opposer aux infrastructures qui maintiennent le système en place. C'est que dans chaque geste d'opposition, il y a une proposition positive.
On peut avoir, moi je trouve, des complémentarités aussi dans les luttes et des stratégies qui vont nous permettre de lutter pour et de lutter contre.
Ce que l'on fait, nous, en proposant des légumes dans nos AMAP tous les vendredis, c'est de l'union.
Lorsque nous faisons des choix de consommation, nous sommes des décideurs économiques.
À l'heure de la transition écologique, c'est un changement culturel qui est devant nous. Les communes rurales, par la proximité de l'institution, peuvent être des exemples dans la mise en capacité d'agir du citoyen.
Agir, ça fait super peur. Mais pas agir, ça fait encore plus peur.
On va rester motivés.
Et pour finir, quelques nouvelles du groupe local Alternatiba Villefranche-Beaujolais-Saône. Le jeudi 5 décembre à 20h, réunion d'accueil et d'information du groupe local Alternatiba. Vous êtes intéressés? Venez. Envoyez-nous un mail à villefranche69@alternatiba.eu. Le vendredi 6 décembre à 20h15, au cinéma Les 400 coups, nous vous conseillons la projection du documentaire Les promesses de l'aube avec la Confédération paysanne. Et n'oubliez pas de vous abonner à nos réseaux pour en savoir plus. Merci à toutes et à tous d'avoir été à l'écoute. Alors on change, c'est fini pour aujourd'hui. On vous donne rendez-vous en 2025 pour l'émission du 27 janvier. On parlera armement, désarmement. À la technique aujourd'hui, il y avait Gaël et Pierre. Un grand merci à eux.
Alors on change, qu'est-ce qu'on attend? On n'a pas de terre de rechange, on n'a plus le temps de faire semblant. Alors on se lance, on laisse plus faire. On n'aura pas de deuxième chance, pas de plan B, pas d'autre terre.
Calade,
ma radio.